des tribus sur l'authenticité de cette unité. Elle n'est pas apparente. Jusqu'à ce qu'elle se réalise, elle est cachée. Ce n'est que là qu'elle peut se réaliser, mais tant qu'elle n'est pas réalisée, elle est cachée. C'est-à-dire jusque-là. Donc, nécessité d'affirmer, d'exhorter, de rassurer Jacob, Israël, que Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Et si on fait une micro-sociologie, même rudimentaire, de la société juive, où qu'elle soit, et surtout la société israélienne qui la récapitule, on s'aperçoit que c'est la société la plus divisée en elle-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Et cette affirmation, c'est une invraisemblance absolue. Vous voyez l'éventail des différentes manières d'être juifs, et vous les voyez tous ensemble attester à leurs ancêtres qu'ils ont le même Dieu, c'est incompréhensible. C'est clair? Et pourtant, c'est vrai, mais c'est vrai au-delà de la raison. Et on a déjà appris suffisamment d'éléments à ce sujet, c'est que l'histoire est telle qu'elle nous oblige à être dans le même bain, dans le même sac, je sais pas comment on dit, sur le même bateau. Vous avez compris? C'est-à-dire que pour l'extérieur de la société juive, tout juif est juif, gamarou, fini, on ne va pas chercher à comprendre. C'est clair? Bon. Alors finalement, ça nous est imposé. Okay. Mais ce n'est pas évident. Et je vous ai dit ça un peu sous forme d'image. Vous allez à la Knesset, vous voyez le représentant de la Goudat Israël dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et le représentant de Hashem Elokeinu dire la même chose. Comment c'est possible? Vous voyez, ce n'est pas évident. Donc, il est nécessaire de le construire. Ça se construit dans ce rythme même de l'affirmation de cette profession. Ça, c'est le premier midrash. Alors, on va aborder maintenant le problème du deuxième midrash. C'est-à-dire de la lecture pshat, le plus exact. Et je vous ai demandé de lire les 9 premiers versets du chapitre 19 de Shmout. Vous vous rappelez de cela? Oui? Je lui ai même demandé 3 fois. La première fois, tu étais assis là-bas. Bon. Alors, prenez le chapitre 19 de Shmout. Et qui l'a vu, qui l'a préparé, qui l'a préparé? Vous l'avez préparé? Alors, je vais vous donner une première introduction très, très succincte. Et on arrivera au verset que je vous avais demandé de voir plus en détail. Alors, vous êtes chapitre 19? Bon, mais je vais être gêné pour commencer l'étude si vous n'avez pas déjà lu ce chapitre. Qui ne l'a pas lu? Ça vous dit rien? Le chapitre 19? Quand vous avez préparé ce cours d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez préparé? Le chapitre 19. Ben, c'est bien. Voilà. Alors, le chapitre 19, vous l'avez tout sous les yeux? Ça y est? Yud-Tet. Donne la page comme ça, tout le monde voit. Ça va aussi. Donc. Eh bien, en hébreu. Aïn-Tet. Alors, page 79 en hébreu. Alors, c'est le chapitre où nous est raconté les circonstances de la révélation du Sinaï. Dès le premier verset, vous retrouverez cette étude par vous-même, j'ai pas le temps de voir le détail. Dès le premier verset, on apprend que le troisième mois de la sortie d'Égypte va se préparer la révélation du Sinaï. Le troisième mois après Nissan, c'est quel mois? Nissan? Iyar? C'est le deuxième. Le troisième? Vous avez appris ça en bibliographie ou pas? Vous ne connaissez pas les mois? Nissan? Iyar? Sivan. Quel est le jour de Shavuot? Qui commémore la révélation de la Torah. Quelle est la date de Shavuot en hébreu?
Le 23 juillet.
Le 23 juillet. Vous savez pas ça? Le 6 Sivan. Bon. Ça y est, c'est clair? Le 6 Sivan, c'est Shavuot. Bon. Alors voilà, donc, tout le peuple est rassemblé. se trouve au début du mois de Sivan. Et je vous prends à partir du verset 3, Gimel. Alors, suivez bien complètement. Vous y êtes ? Alors, on est au chapitre 19, verset 3. Où Moshe, Allah et l'Elohim, et Moïse monta vers Dieu, Vaikra Elav Hashem Minahar, et Hashem l'appela de la montagne, du haut de la montagne, l'Emor, en disant Ko Tomar Lebet Yaakov. Mais vous n'avez pas encore le livre sous les yeux ? Donne-moi le livre, je te montre. Viens. Alors on est à la fin du verset 3. Kotomar levet Yaakov. Voilà ce que Moïse va entendre en étant chargé de le dire, de le transmettre aux enfants d'Israël. Ainsi, tu diras à la maison de Jacob, le Tagil ibn Israël, et tu expliqueras aux enfants d'Israël. Verset 4. Atem reite macher atit ilim Israël. Vous avez vu, vous avez l'importance de voir, parce qu'ils ont eu l'expérience, ils ont assisté, et ensuite, ça va devenir de la mémoire. Et si la mémoire se perd, l'expérience est perdue. C'est clair ? Je vous donnerai en parenthèse une définition de la tradition, avec un grand T, qui se relie à ce sujet. La tradition est à la vie de l'esprit, par la mémoire, ce que l'hérédité est à la vie du corps. Si une hérédité est coupée, elle ne se raccroche pas. Si une mémoire est perdue, elle est perdue. Vous avez compris le problème ? Et alors, Atemrite, vous avez vu Asher Asiti le Mitzrayim, ce que j'ai fait à l'Égypte, va essa être Malkan Fenesharim, mais je vous ai porté sur les ailes de l'aigle, des aigles, va vi être Melaï, et je vous ai amené vers moi. Verset 5. Verata, et maintenant, Im Shamo, Artishmeru Bekoli, si écoutez, vous écoutez ma voix, Ushmartem et Beriti, et que vous gardez mon alliance, Veitem ni Segula Mikola Amim, vous serez pour moi la meilleure part des peuples. Ce goût-là, ça on va traduire un autre jour plus attentivement, mais pour le moment le sens suffit. Kili kola aret, car toute la terre est à moi. Et voilà le verset qui est important, verset 6. Ve'atem, et vous, tiyuli mamnechet kohanim, vous serez pour moi un royaume de prêtres. Mamnechet kohanim, ce verset, il faudra que vous l'appreniez par cœur, parce qu'il va revenir maintenant très souvent en début. Et vous serez pour moi un royaume de prêtres, ve'goy kadosh, et une nation sainte. Elle hadavarim asher tedaber el bnei Israël. Voici les paroles que tu parleras aux enfants d'Israël. On ne connaît pas la suite. Okay? C'est-à-dire, jusque-là, l'objet de cette convocation de tout Israël après la sortie d'Égypte, au troisième mois, vous verrez l'ordre du récit, c'est de transmettre toute la Torah dans un seul verset à Israël, et c'est ce verset qu'on a lu. Voilà pourquoi vous êtes sortis d'Égypte. Pour devenir une nation de prêtres, une royauté de prêtres et une nation sainte. On reviendra d'autres cours sur le détail de la forme de ces versets. Toute la Torah dans un seul verset. Alors je lis la suite et on revient à ce verset. Vayavo Moshe et Moïse vint. Vayikra les Ikneam et il convoqua les anciens du peuple. Suivez bien tous les détails. Vayasem l'Ifneem et il plaça devant eux et koladavari maele toutes ces paroles. Asher tibeo Hashem que Dieu lui avait ordonné. Verset 8, Vayahanu Kolaham Yahdav, et le peuple, ensemble, Yahdav, Vayahanu, répondit.
Quel verbe,
Lahanot, répondre. Ça veut dire aussi commencer à parler. Lahanot. Vayahanu, et il répondit, ensemble, Vayomru, et il dit, Kolacher Diber Hashem Naase, tout ce que Dieu dit, nous ferons. Vayashem Moshe Diber Aram et Hashem. Et Moïse rapporta les paroles du peuple à Dieu. Verset 9. Vayomer Hashem el Moshe. Et Dieu dit à Moïse, Hine, voici, Anochi ba elecha. C'est moi qui viendra vers toi. Je viens vers toi. Comment on dit en français? C'est moi qui viendrai vers toi. Oui. Je viendrai vers toi. Bera verana. Dans l'opaque de la nuée. Baravour, afin que Ishmaraham. Le peuple entend Bedaberi Imar quand je te parle, que c'est moi qui te parle, et Gambecha Yaminu Leolam, et même en toi, ils auront foi à jamais. Bon, alors je vais vous expliquer en introduction le problème de l'enseignement qu'enseignent ces versets. Et là encore, il faut nous déshabitués d'une familiarité que nous avons trop sommaire. Lorsque nous parlons de cet événement, du Sinaï, tout se passe comme s'il va de soi que l'objectif de la sortie d'Égypte, c'est d'aller au Sinaï et recevoir la Torah. Mais on ne connaît pas la suite encore. Dans ce dialogue-là que la Torah nous donne au début du chapitre 19, la révélation des 10 commandements, l'événement du Sinaï, ce sera le chapitre 20, Dieu charge Moïse d'un message très précis. Vous allez devenir une royauté de prêtres, et ça veut dire royauté de prêtres pour les autres peuples, et une nation sainte pour vous-même. Vous avez souvent entendu, je suppose, cette expression dans beaucoup de sermons ou dans beaucoup d'études, que Israël est un peuple de prêtres. Et on se balade à travers l'histoire en racontant une chose qui n'a aucune identification dans l'histoire. Israël, un peuple de prêtres, vous avez vu ça. Israël a des prêtres, encore, quand ils sont vraiment prêtres. Mais le premier projet de la fonction d'Israël dans l'histoire de l'humanité après la sortie d'Égypte, à travers l'expérience de l'Égypte, c'est de devenir les guides des autres nations. Ça a été empêché jusqu'à la fin des temps. Alors, très souvent, les rabbins ne se rendent pas compte quand ils font leur sermon, ils s'adressent à un peuple qui sait très bien qu'il n'est pas encore le peuple des prêtres des autres nations, et lui dit, mais vous êtes le peuple des prêtres. Donc tout ça, c'est différé, référé à la fin des temps, parce qu'il y a deux empêchements. Les nations ont refusé, ils se sont même inventé des faux Israël pour se remplacer le vrai Israël, vous suivez ? Et d'autre part, Israël lui-même n'est pas encore capable de l'être. Nous étudierons très en détail ces deux raisons. Il y a toujours deux raisons à un obstacle. Une raison extérieure, une raison intérieure. Mais c'est le projet préalable de la Torah pour Israël. C'est clair ? Et Moïse transmet ce message. Qu'est-ce que le peuple répond ? Ça, vous l'avez au verset 8. Tout ce que Dieu dira, nous ferons. C'est clair ? Et on entend ce verset dans une louange pour Israël d'avoir accepté ce que Dieu demande. Bon. Mais c'est la suite qui devient difficile à comprendre. Alors Dieu rapporte cette réponse que nous avons lue pour le moment comme une acceptation inconditionnelle. Okay. Ça, c'est le grand mérite de la génération de la sortie d'Égypte, d'avoir s'être engagé à accepter, à faire ce que Dieu dit. Quand la chair libère Hachem, n'a assez. Okay. Et alors Dieu donne cette Moïse donne cette réponse à Dieu, vous avez le contexte, et alors Dieu lui dit, ah ben, puisque c'est comme ça, je vais venir moi-même te parler de telle sorte qu'ils entendent que je te parle et que quand c'est toi qui parles, c'est moi qui t'ai dit et ils auront foi aussi en toi. Ça va ? Ça marche pas. Vous y êtes ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc on va reprendre l'expression du verset 8. Je vais trop vite ou ça va ? Vous voyez la difficulté ? Ça veut dire, il y a cette première dimension de louange, enfin positive. Ce peuple est un peuple imprudent. Il s'est engagé comme ça, les yeux fermés. Tout ce que Dieu dira, nous le ferons. Bon, c'est irréversible. Vous savez ? Il y a une préface à tout ça. C'est pas n'importe quel peuple. Depuis Abraham, ça se prépare. Vous suivez ? Mais voilà ce qui se passe dans l'événement. Seulement, il y a une implication de cette formule qui est éclairée par le verset 9. C'est comme si le peuple avait dit, mais suivez-moi bien. Et si c'est pas clair, je recommence 15 fois. C'est comme si le peuple avait dit, ce que Dieu dira, nous ferons. Parce que tu viens de nous dire, toi, Moïse, ça, on l'a jamais entendu. Vous y êtes ? Alors c'est pourquoi Dieu dit, puisque c'est comme ça, il faut que je t'habilite. Alors je vais me révéler à eux. Mais comme ils ne peuvent pas supporter la révélation, c'est pourquoi entre-temps ils ont des prophètes, ça sera caché dans le nuage de la fumée, dans la fumée du nuage, de telle sorte qu'ils m'entendent te parler et qu'en toi aussi ils aient foi. Ça va jusque-là ? Attendez, avant vos questions. Vous avez compris ce que je suis moi en train de vous dire. Okay ? C'est-à-dire que l'objectif de l'événement du Sinaï, c'est d'habiliter Moïse. Alors, ce qu'il faut que nous comprenions, c'est pourquoi il était nécessaire d'habiliter Moïse, par rapport à quel doute ? Vous avez bien compris ? C'est bien clair ? Ça veut dire, si le peuple avait été capable de foi en l'authenticité de Moïse à la sortie d'Égypte, il n'aurait pas eu besoin de l'événement du Sinaï. C'est clair ? Vous voyez pourquoi je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut se prendre une distance avec les familiarités sommaires que nous avons d'évidence a priori. C'est clair ? Vous verrez, quand vous serez très familier avec l'ordonnance du récit, que finalement cet événement du Sinaï n'était pas prévu apparemment. Il est arrivé parce qu'on en a eu besoin. Premièrement, besoin de quoi ? D'habiliter Moïse en tant que prophète, que porte-parole de la loi. Parce que jusqu'à présent, les Hébreux n'avaient eu foi, ceux qui étaient sortis d'Égypte, quand Moïse, chef politique du peuple, celui qui a mis fin à l'exil et les a libérés. Et voilà que ce même Moïse, qui les a libérés, vient leur parler un langage auquel ils ne s'attendaient pas. Vous avez une mission, une Torah. Vous suivez, jusque-là, il n'y a pas de Torah. C'est clair ? C'est bon. Par conséquent, je vais toujours dans cette analyse, il faudrait la fouiller plus en détail, mais toujours dans le sens positif. C'est une louange, dit le Midrash, que le peuple réclame des preuves parce que on n'a pas le droit de faire foi aveugle quand on entend quelque chose d'apparemment inattendu. C'est clair ? Tout se passe comme si le peuple l'a dit. Ah, c'est ce que Dieu a dit, mais qu'il nous le dise à nous. C'est clair. C'est avec nous. Et d'ailleurs, vous connaissez peut-être, pour ceux qui ont lu, la suite du récit, et au moment où Dieu dit, d'accord, il faut que je me révèle à eux, en tout cas, au moins par la parole, puisque par la vision, ils ne se porteront pas. Seul Moïse est à ce niveau-là, c'est pourquoi ce peuple a besoin de l'intermédiaire qui est le prophète, mais le prophète n'est là que pour parler pour le peuple. Et dès que Dieu commence à parler, tout le monde s'adresse à Moïse. Bon, ça va, on a compris, on va mourir. Si ça continue, parle-toi. Vous voyez, c'est clair, vous vous rappelez de cela. Ça va ? Et par conséquent, on va resserrer notre sujet pour le problème du Kriyat Shema. Quand Moïse dit à Israël, écoute Israël, Hachem, notre Dieu, c'est le même, de quoi il est parlé ? Et quelle était cette tension entre ces deux expressions, Hachem, Dieu de Moïse, Hachem, Dieu d'Israël ? Et ici, au moment précis, où ceux qui avaient déjà eu foi en Moïse, comme le chef politique qui les a libérés dans l'histoire, dans leur histoire, se posent la question d'un deuxième visage de Moïse, apparemment, celui qui va donner la Torah. C'est clair ? Et vous comprenez déjà la nécessité pour Moïse de se référer à cela, et au moment où il va les quitter, le livre de Devarim, c'est le jour de sa mort qu'il leur a donné, de leur dire, attention, n'oublie pas, rappelle-toi que c'est le même. Et cette preuve que c'est le même, ils l'ont eu au Sinaï. Que le Dieu d'Israël et le Dieu de Moïse, c'est le même. Et je vous dis une chose énormément paradoxale. Okay ? Comment ça va se voir que le Dieu de Moïse et le Dieu d'Israël, c'est le même ? On va comprendre en quoi il y avait un problème. Ça vous éclaira d'autre part le fait que pendant toute la génération de la sortie d'Égypte, depuis le début, ça vous l'apprendrez dans le livre de l'Exode très en détail, depuis le début jusqu'à la fin, pendant tous ces 40 ans, depuis le début des événements en Égypte jusqu'à la fin des 40 ans du désert, il y a eu une tension entre ce peuple et Moïse qui est incompréhensible autrement. C'est clair ? Bon, alors j'explique et rangez vos questions pour à la fin de l'explication. Peut-être qu'entre temps, elles s'arrangeront, mais enfin, rangez-les quand même. Voilà. Jusqu'au moment où Moïse va se révéler comme celui qui donne la Torah, les Hébreux, sauf la tribu de Lévi qui est un cas particulier, mais mettez ça de côté. Les Hébreux n'avaient comme foi que la confiance dans la promesse qui avait été faite au patriarche que l'exil prendrait fin. Pas question de Torah. Ça va jusque-là ? Quelle était la foi des Hébreux en Égypte ? Que l'exil prendrait fin. Quelle était l'étude de la Torah ? C'était l'étude du livre de Bréchit. L'histoire du monde, de l'humanité, depuis le premier homme à travers les patriarches jusqu'à l'Égypte. Vous n'avez pas la suite ? C'est clair ? Tout le monde a bien compris ? Et puis voilà que ce qui finalement ont cru en Moïse comme celui qui va réaliser cette promesse. Un cinquième des Hébreux, les quatre cinquièmes sont restés en Égypte. Vous vous rappelez de cela ? On l'a étudié ? On y a fait allusion. Ceux-là ont eu foi dans le Moïse, prophète de l'accomplissement des promesses au patriarche. Ça va ? Et ce même Moïse, prophète de l'accomplissement des prophètes au patriarche, le chef historique, le chef politique, se transforme d'un coup en chef religieux. Et leur dit, et quant à vous, vous serez pour moi une nation de prêtres, etc. Et du Nouveau Testament. Vous avez compris le problème ? Alors il demande, tout ce que Dieu dira, nous le ferons. Et Dieu a très bien compris la réponse du peuple, puisque sa réponse est de dire, eh bien je vais le leur dire moi-même, de telle sorte qu'ils m'entendent te parler, et qu'en toi aussi ils aient foi à jamais. Ça va ? Alors je vous ai une petite analyse, un petit schéma, auquel j'ai fait allusion probablement dans d'autres cours, c'est que le peuple d'Israël va se trouver à ce moment-là dans une tension entre le Dieu de la foi et le Dieu de la loi. Je le dis en hébreu. Le Dieu de la foi, c'est la tradition des Hébreux en Égypte depuis les patriarches. La foi dans les promesses qui ont été faites par révélation aux Avot, aux patriarches. C'est clair ? Comprenez bien, parce qu'ici, pour nous, les modernes, il va y avoir un petit paradoxe, un grand paradoxe même. Ça veut dire que la foi, dans le sens de l'histoire d'Israël, est préalable, a priori, de la Torah elle-même. C'est clair ? Vous voyez comment la foi précède la loi. Vous avez compris ? Donc. Et puis, la tension entre cette ferveur de la foi et la foi, c'est que l'histoire d'Israël a un sens, et quel est ce sens ? Depuis le début de l'histoire de l'humanité, c'est qu'il y aura une fin à l'exil. Galut Geoula, vous vous rappelez de ça ? C'est ça la foi juive. C'est bien clair ? Donc, en termes modernes, pour aller un peu plus vite, ça veut dire que la foi des Hébreux en Égypte, qui ont suivi Moïse à la sortie d'Égypte, c'est ce que nous appelons de notre temps le sionisme. Quitter l'exil et rentrer au pays des ancêtres. Ça va jusque-là ? Quand on étudiera Pessah, nous reverrons ça beaucoup plus en détail, et là apparaîtra un principe très important, ça se passe dans un bouleversement des règles naturelles, parce que d'exil, on ne sort pas, s'il n'y a pas intervention miraculeuse. Vous avez compris ? Vous connaissez tous vos cousins, vos cousines, okay. Ils ont les mêmes ancêtres, et puis ils ne sortent pas. Okay. Pourquoi ? Parce que d'exil, on ne sort pas, tout simplement. C'est clair que d'Égypte, on ne sort pas. Du camp de concentration, on ne sort pas. Et l'Égypte était le camp de concentration. C'est bien compris. Alors, c'était ça la émouna, la foi des Hébreux, que quelles que soient les apparences d'exil, on ne sort pas, la Géoula est possible. Vous vous rappelez de l'importance du mot Géoula dans la liturgie du Flamme. Ça va ? Alors, ça y est, le premier point est acquis. Les fidèles de Moïse, c'est les sionistes de l'époque. Et puis voilà que ce même Moïse, on dit, ah, mais il y a une clause à la clé. Toute votre histoire, c'était pour passer par cette expérience, pour pouvoir savoir que Dieu délivre de l'exil, et ça vous allez l'enseigner, vous allez devenir les prêtres des nations. Alors le peuple réagit en disant, eh bien que Dieu nous le dise lui-même. Ça va jusque-là ? Ça n'enlève en rien la lecture positive par laquelle j'ai commencé, qui sont prêts à ce que Dieu va dire. C'est clair ? Mais il y a un cran de plus. Ils réclament que ce soit Dieu qui le dise, parce que peut-être ça c'est une religion fondée par Moïse, et qu'elle n'a rien à voir avec le Dieu des ancêtres, des patriarches. Vous avez compris ? C'est bien clair jusque-là ? À essayer de faire l'effort d'analyse pour reprendre les choses dans leur ordre, dans leur commencement. Vous savez, il y a je pousse les choses à la limite, deux profils de Moïse qui apparaissent à ce moment-là. Le Moïse chef politique et le Moïse Rosh Yeshiva. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Et vous savez très bien que la société juive est divisée sur ce problème, exactement comme la Torah le raconte. Il y a quatre attitudes possibles. Il y a ceux qui suivent le Moïse de la sortie d'Égypte. C'est les juifs de l'histoire juive. C'est clair ? Bon, ils ne sont pas forcément des juifs de la Torah. Ils ne suivent pas le Moïse de la Torah. Mais ils suivent le Moïse de la sortie d'Égypte. Retenez bien, ce qui est important, c'est l'ordre. D'abord la sortie d'Égypte, après la Torah. C'est-à-dire recevoir la Torah. Si on n'est pas sorti d'Égypte, cloum, choum, ça n'existe pas. C'est clair. Bon. Et vous allez me dire, mais et tous ces religieux de l'Égypte, demandez-leur comment ils disent ça. Alors, le deuxième groupe, c'est ceux, justement, c'est ceux qui acceptent le Moïse de la Torah et pas le Moïse de la sortie d'Égypte. Vous avez compris ? Vous voulez que je les identifie ? En général, ils sont gris foncé. Il y a le troisième groupe qui ne reconnaissent ni l'un ni l'autre, cela on va les appeler les juifs assimilés, et il y a, grâce à Dieu, le quatrième qui reconnaissent les deux. Ça va ? Non, mais il y a un ordre. C'est d'abord l'histoire et après la Torah. C'est clair ? D'abord la sortie d'Égypte, après le Sinaï. Bon, 2 et 2, ça fait 4. Ça veut dire, ceux qui sont dans l'ordre inverse, la Torah et pas la sortie d'Égypte, il n'y a pas d'espoir que ça s'arrange. Ceux qui sont dans l'ordre, la sortie d'Égypte et après la Torah, il y a un espoir que ça s'arrange. Vous avez compris le problème ? D'ailleurs, je reviens au début de cette histoire. La première chose que Dieu a dit à Abraham, c'est quoi ? Sors d'exil, rendez-vous là-bas, et là-bas je te parlerai. C'est la même chose à la sortie d'Égypte. Sortez de l'Égypte, et j'ai quelque chose à vous dire. Mais ce que j'ai à vous dire ne concerne que ceux qui sont sortis d'Égypte. C'est clair jusque-là ? Bon. Et comment on l'apprend ? Du premier verset des 10 commandements que vous aurez dans le chapitre 1. Je suis celui qui vous ai fait sortir d'Égypte. Voilà ma loi. Celui qui n'est pas sorti d'Égypte, quel rapport il a avec cette loi ? C'est clair?
Oui, qu'on ne peut pas tordre les versets à l'envers. Ils disent ce qu'ils disent.
Bon. Alors donc, on a atteint ici un point très important. La première raison fondamentale de la révélation du Sinaï, c'est pour habiliter Moïse, que c'est bien le Dieu de la sortie d'Égypte qui donne la loi. Parce que jusque-là, ils n'avaient entendu que le prophète de la sortie d'Égypte. Maintenant, ils entendent le prophète de la loi. C'est clair? Alors, où est le paradoxe? Le paradoxe, c'est que je vous ai mis la foi avant la loi. Et c'est vrai, c'est comme ça. Ça veut dire, ceux qui ont la loi sans la foi, c'est qu'ils n'ont pas la foi. Et de quelle foi il s'agit? Sortir d'Égypte. Ça y est, c'est clair? On arrive à un paradoxe gigantesque. On réidentifie un peu plus. Vous avez des religieux dans l'exil. Et vous avez des Israéliens sans Torah. Vous voyez les deux limites. C'est clair? Alors, les uns sont sortis d'Égypte, suivent le Moïse de la sortie d'Égypte, mais pas encore le Moïse de la Torah. Et les autres sont complètement à l'envers, ils suivent le Moïse de la Torah, mais pas le Moïse de la sortie d'Égypte. Alors, de quelle Torah il s'agit? Ça y est, c'est clair? Donc, pas d'objection?
Il faudrait que les sionistes soient non religieux, alors?
Non. Ça veut dire qu'il y a un premier moment d'identité juive qui consiste à être sioniste. Dans l'ordre logique et historique d'ailleurs, alors on voit qu'il y a des sionistes qui sont restés au premier stade. Mais ils sont dans l'ordre. Ce que je veux dire, ça vous paraît peut-être paradoxal quand on est un rabbin, vous parlez comme ça. Et je ne dis pas, c'est vrai. Mais vous avez deviné que je ne suis pas un rabbin de la Gola, tout simplement. C'est clair. Alors ça veut dire, il y a un ordre des points d'identité. Vous savez que c'est la pergola. La Gola, vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est la Gola? La diaspora en grec. Et alors, l'exil. Vous savez même pas d'où vous venez? Il y a une mishnah comme ça. Sache d'où tu viens et sache où tu vas. Je reviens au problème. C'est qu'il y a un ordre. Il y a d'abord identification dans l'histoire du peuple. Et le point focal de cette histoire nous est donné par l'événement de la sortie d'Égypte, l'accomplissement de la promesse au patriarche que l'exil prendra fin. Qui étaient les hommes pieux des Hébreux d'Égypte, ceux qui croyaient en ça? C'était ça leur foi. Ils croyaient au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et qu'est-ce que leur a dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? C'est ce qu'on commence à étudier dans l'histoire d'Abraham déjà. Une chose essentielle, vous sortirez de l'exil. Vous vous rappelez de cela? C'est clair? Bon. Tout le récit de la Torah, c'est pour nous expliquer la sortie d'Égypte. C'est ça l'objet de la foi d'Israël, que la sortie d'exil est possible, alors qu'elle n'est pas possible au niveau de nature. Quand ce n'est pas des obstacles massifs grossiers, le rideau de fer de Russie, c'est des obstacles subtils, les allocations familiales en France, des histoires de changement. Et c'est des obstacles. C'est des échantillons que je vous ai donnés. Tous les obstacles possibles. On ne sort pas d'exil. C'est clair? Bon. Alors vous allez me dire, mais on voit bien comment on sort. Oui, oui, on en sort par miracle. Enfin, le mot en français n'était pas à sa place, mais pendant 2000 ans, on ne pouvait pas. Miracle, pas de miracle. C'était pas le temps, on ne peut pas. Subitement, la porte s'est ouverte, on peut. Alors, c'est en 48 qu'il y a eu le miracle. C'est vrai? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés, parce que à l'échelle individuelle, chacun est à un rythme X de ce cheminement. C'est bien évident. Mais je reviens à ta question. Et il ne faut jamais choisir entre la peste et le choléra. Souvent, on me dit, mais qu'est-ce qui va être mieux? Un religieux à Paris ou un athée à Beersheba? Pourquoi voulez-vous qu'on choisisse entre la peste et le choléra?
Suivant
Alors attends, j'ai pas fini. Mais il y a un ordre. Ça veut dire celui qui s'est déjà identifié, celui qui s'est déjà identifié par rapport au Moïse la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le sioniste. Un sioniste, c'est pas le président de la fédération sioniste de Trifouille et les Oies. C'est un citoyen de Beersheba. Celui-là peut arriver à l'identité authentique, au deuxième stade de la Torah. Mais celui qui a mis les choses à l'envers et qui a mis la Torah d'abord, le Moïse de la Torah d'abord, et qu'à cause du Moïse de la Torah, il ne peut pas voir le Moïse de la sortie d'Égypte, celui-là, il n'y a pas d'espoir. C'est clair? C'est la... Vous avez bien compris, hein? Je vous ouvre une parenthèse. Vous n'avez pas remarqué que les Hébreux en Égypte se définissaient comme étant porteurs d'une foi, d'une espérance que l'exil prendrait fin. Et quand Moïse vient leur dire, ça y est, il faut sortir,
ils se sont opposés à lui. Imaginez Herzl, je vais vous parler en parisien, arrivant à Saint-Paul. Oui, Herzl arrivant à Saint-Paul. Et qu'est-ce que lui aurait dit le rabbin de la rue pavée? Tu bégayes, c'est ce qu'on a dit à Moïse. Il est venu leur dire, eh bien, c'est le temps. Alors il voit un journaliste assimilé, viennois de culture française, sans kippa, il ressemblait à un égyptien comme Moïse, et qui m'a dit, eh bien, vous savez ce que vous attendez, nous, c'est l'heure. Et il s'est entendu répondre en yiddish, par le français. Ça veut dire... vous imaginez la scène. Alors imaginez Moïse arrivant chez les Hébreux en Égypte en leur disant c'est le temps. Alors ils ont refusé. Au nom de quoi? Au nom de leur foi. Ils attendaient et on leur dit qu'il ne faut plus attendre, on leur change de religion. C'est une blague, en fait pas une blague, c'est de l'humour, mais vous avez compris, j'espère. Comment ce mérite d'attendre, on va le leur enlever en disant c'est arrivé. Ils ont dit non, on préfère attendre. Il y a que ceux qui ont cru Moïse qui sont sortis d'Égypte. Les autres, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils se sont perdus dans le paysage égyptien. Fini. C'est clair? Ça prend du temps, quelques centaines d'années, et puis ça disparaît. C'est clair ce que je dis là? Donc, je ne vous ai pas dit, ne me faites pas dire que la diaspora va disparaître au bout de quelques centaines d'années. Je suppose des dizaines. Alors, en tout cas, c'est un autre problème. Mais... le problème pour ceux qui ont eu foi au Moïse de la sortie d'Égypte, c'est que maintenant il y a tout un autre programme qui se révèle à eux. Alors il faut l'habilité, cette unité. Alors je reviens sur ce point particulier, j'espère que vous comprenez bien. Il est évident que tant qu'on n'est que la moitié, on n'est que la moitié. Mais il y a un ordre, ça commence par le Moïse de la sortie d'Égypte. Et on arrive avec lui au Sinaï. Si on arrive au Sinaï sans être passé par la sortie d'Égypte, c'est une autre religion que la religion d'Israël dont parle ce livre. C'est bien clair? Alors, ça vous fait mieux comprendre ce que je vous disais un peu de façon abrupte dans des cours précédents, que c'est comme ça que la chrétienté avait commencé. Une diaspora d'Israël qui s'est coupée de la nation d'Israël. Ça va jusque-là? Alors, à l'échelle individuelle, il y a un phénomène de solidarité qui joue de façon indéniable. Mais du point de vue de l'identification de la diaspora comme telle par rapport à Israël, c'est la même situation que la sortie d'Égypte. Ceux qui sont sortis d'Égypte, ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte. Ceux qui sont sortis d'Égypte sont arrivés au Sinaï, ceux qui sont sortis d'Égypte ne sont pas arrivés au Sinaï. Vous avez compris la différence. Ça vous fait les quatre catégories de la société juive contemporaine sur ce problème. Alors, c'est pourquoi Moïse doit exhorter Israël, et nous allons le voir dans le texte maintenant, vous allez prendre le premier paragraphe, je vais vous montrer. Toute cette lecture, vous allez la revoir dans le texte. Premier verset. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Là, le mot Elokeinu est au pluriel. Okay. Écoute Israël, Hashem, notre Dieu, à toi Israël, à moi Moïse, c'est le même. Vous suivez? Bon. Deuxième verset. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. C'est un singulier. Et tu aimeras Hashem, ton Dieu. Ça veut dire comme tu l'as connu avant le Sinaï, dans la foi du Dieu des patriarches, de la promesse. C'est clair? Troisième verset. Ve'ayu adevarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom alevavecha. Et seront ces paroles que moi je t'ordonne aujourd'hui, la Torah, sur ton cœur. Alors oui, la dialectique de ces trois versets. Premier verset, l'affirmation de l'unité des deux. Deuxième verset, exhortation à ce qu'Israël reste fidèle à sa foi préalable. Troisième verset, ajouter les commandements de la Torah. Vous avez bien vu l'ordre, okay? C'est clair? Bon. Alors voilà donc pour cette lecture. Alors maintenant, j'espère que c'est suffisamment clair, mais sinon, si vous avez des questions, on va les voir maintenant. Bon, on n'a plus que 5 minutes. Alors attendez, on a commencé le cours à 11h. Hein? Oui, alors on n'a plus que 5 minutes. Okay.
Il y a quelque chose que je comprends. Si le peuple demande à Dieu... que c'est dans la Moïse que Dieu se révèle à lui directement. C'est bien qu'il y a un postulat de départ qui croit déjà en Dieu.
Oui, mais il ne croit pas en Moïse. C'est ça le fait. C'est-à-dire, ce texte montre très clairement qu'il croyait en un Moïse de la sortie d'Égypte, mais il ne croit pas en un Moïse qui leur parle de Torah. Parce qu'ils ne s'attendent pas à ça. Essayez de faire l'effort d'imagination. Je vous ai mis la tribu de Lévi de côté. Ça, on reviendra là-dessus, pourquoi la tribu de Lévi, elle a été dans le coup. Alors voilà,
le mouvement sioniste contemporain. Et subitement, Herzl lui-même va leur dire, mais vous savez, il y a une Torah. Et quelle Torah? Nous, toute notre identité, c'est quitter l'exil et être libre sur notre terre. C'est ça ce qui se passe à la sortie. Alors, le Herzl bis serait contesté. Bon, je vous ai peut-être dit trop de choses à la fois, mais je pense que ça c'est clair. Lorsque le peuple dit tout ce que Dieu dira, nous ferons, ça sous-entend par ce que Dieu nous dit, toi, là, Moïse. Revenez-vous, bien dans votre conscience. C'est pourquoi Dieu dit tout de suite, ah bon, il faut que je t'habilite. C'est clair ? Qu'est-ce qu'il a dit ?
Est-ce que c'est pas négatif aussi de dire tout ce que Dieu dira, nous ferons ? Est-ce que ça revient pas non plus à la
communauté
de Noah par rapport à la communauté?
Non, parce qu'il y a Hachem, il n'y a pas Elohim. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais poser une autre question. Réfléchissez jusqu'au cours la prochaine fois. Et quel mérite il y a quand Dieu se révèle à accepter? Et quand Dieu se révèle, est-ce qu'on peut refuser? Où est le mérite? Vous suivez? Vous avez compris ma question? Et ce mérite auquel on se réfère, au pied du Sinaï, les Juifs, les Hébreux ont dit, d'accord, est-ce qu'ils pouvaient faire autrement? Oui, le mérite. Quand Dieu se révèle, quand il y a révélation, la liberté disparaît. Comprenez bien ça. Oui. Je vous donne un exemple, en logique. Vous n'avez pas encore appris un théorème de mathématiques. Et puis vous apprenez un théorème de mathématiques. Cette évidence de la vérité du théorème mathématique vous empêche de penser autrement. L'évidence du révélé supprime la liberté. Si le soleil brille, je ne peux plus dire que je ne sais pas s'il y a un soleil, il brille. Quand il est caché, il y a un doute, parce qu'il y a un soleil. Mais quand il brille, je ne suis plus libre de dire non. Je peux mentir, mais mensonge, toute chose.
Le doute peut exister.
Hein?
Le doute peut exister. On peut refuser la suprématie.
Oui, on peut mentir, mais on sait ce qu'on fait. On dit non, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas. On sait à quoi on dit. Par exemple, si on parlera un jour du problème de l'athéisme, les athées ne savent pas ce qu'ils nient. C'est pourquoi, d'après la halakha, on ne peut pas dire de quelqu'un qu'il est vraiment athée, à moins que ce soit un grand ami chacham, qui sait de quoi il parle et il dit non. Mais si c'est de quoi il parle, tu crois qu'il va dire non? Il n'y a pas d'athée. Non. Vous avez compris ce que je veux dire? Et là, il y a des révoltés. Mais je reviens à la règle logique. L'évidence du révélé supprime la liberté. Je vous donne une image. Quand le roi n'est pas là, les serviteurs croient qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais dès que le roi est là, eh bien, garde à vous, plus personne ne bouge. Qui va dire oui ou non?
On a le choix de choisir.
Attends, on n'est pas encore dans la réponse. Je vais vous convaincre ma question. À partir du moment où je sais, je connais une vérité, si je suis normal, je ne peux pas me conduire autrement. Donc la connaissance supprime la liberté. Si la liberté n'est pas supprimée, ça veut dire que la connaissance n'est pas claire. Et quelqu'un qui s'entête à dire 2 et 2 ça fait pas 4, eh bien il faut aller à Sainte-Anne chez le professeur Baruch et lui dire Baruch Atah. Vous avez compris? Vous savez, à la vérité il y a deux contraires, il y a l'erreur et le mensonge. Alors le mensonge ça n'a rien à voir, on peut mentir. Vous avez compris? Quelqu'un qui, devant le soleil qui brille, vous dit « il n'y a pas de soleil », bon, ça se soigne. Gomarlou. Vous voyez, c'est clair? Alors, je reviens à mon principe. Où est le mérite de dire « il y a le soleil quand il brille » Oui, où est ce mérite-là? Le mérite, c'était d'arriver là-bas où ça allait se passer. Le mérite est acquis de la sortie d'Égypte au Sinaï. Et le jour du Sinaï, c'est imposé. Mais c'est imposé à qui? C'est imposé à qui est venu au rendez-vous. Le mérite, c'était d'être venu au rendez-vous. C'est clair jusque-là?
Je ne vois pas pourquoi ça supprime la liberté.
Je ne veux pas poser le problème. Je ne veux pas poser le problème au niveau de l'expérience spirituelle. Parce que si tu le comprenais au niveau de l'expérience spirituelle, tu ne poserais pas la question. Donc, puisque tu as posé la question, je te réponds au niveau logique. À partir du moment où s'est dévoilé à moi une vérité logique, l'exemple le plus classique, c'est les mathématiques. Je ne suis pas libre de nier. Je peux m'occuper d'autre chose, mais je ne peux pas dire que c'est faux, puisque l'évidence est une contrainte sui generis. C'est l'évidence qui me contraint à voir. C'est clair? Bon, alors par analogie, s'il y a dévoilement, révélation, c'est bien Dieu qui parle, qui va dire oui ou non? Alors le mérite, c'était d'arriver là-bas. C'est bien clair? Le mérite est avant. C'est le mérite, c'était le choix libre d'arriver à ce niveau où je ne suis pas libre devant la vérité. Alors là, je vais peut-être vous dissoudre un des clichés de la culture contemporaine. C'est vrai que la liberté est une grande valeur, mais c'est une valeur transitoire. C'est pendant tout le temps où je suis en train d'acquérir le mérite. Mais à partir du moment où je l'ai acquis, eh bien, je suis au-delà. Le souci du juste, c'est de ne plus être libre. Pourquoi ? Parce que pour un juste, être libre, c'est être libre de faire le mal. La récompense du juste, c'est de ne plus faire le mal. Bon, alors ça ne veut pas dire que tout le temps transitoire de l'acquisition du mérite n'a pas sa valeur propre. Ce qu'on appelle le libre arbitre. Okay ? C'est bien clair. Mais le seul souci du juste en train d'être libre, c'est de, un jour de ne plus l'être. Vous avez compris cela ? Par exemple, quand on étudiera le problème du repentir, comme on dit le repentir en hébreu, teshuvah, eh bien, la récompense du Baal Teshuvah, si c'est authentique, c'est qu'il ne peut plus recommencer la faute qu'il avait faite. C'est sa récompense, parce que tant qu'il pourrait encore la faire, c'est dur. Mais sa récompense, c'est qu'il ne peut plus. C'est d'ailleurs le signe que la Teshuvah est authentique. Okay ? J'ai compris le problème ? Et, je ne sais pas, est-ce que vous voyez un rocher Shiva entrer dans un cabaret ? Il ne peut pas. Il tombe en syncope tout de suite. Il ne peut plus. Alors ça n'a aucun sens de dire « je veux pas ». Il ne peut plus, c'est fini. Ça y est, c'est fait. Alors réfléchissez bien à ça, parce que les deux choses sont vraies, bien que apparemment contradictoires. C'est un grand mérite de choisir dans la liberté, mais ça c'est un mérite au niveau des actes. Mais c'est un plus haut mérite de ne plus avoir à choisir. Parce qu'on a déjà intégré une valeur, on est comme ça, gamin, c'est fini. C'est clair ? Bon, alors il faut faire beaucoup d'apprentissage pour arriver au deuxième niveau. C'est-à-dire qu'il faut être beaucoup, beaucoup, beaucoup libre pour mériter de ne plus l'être. Bon, alors je vais arrêter le cours ici. Alors, shalom, et on se reverra dimanche pour le cours... de l'histoire des patriarches. Vous rappelez qu'on est tout au début encore, on va aller très vite ce mois-ci. Et vous avez trois références à avoir en tête et à préparer, les trois promesses à Abraham. Vous vous rappelez de cela ? C'est là qu'on est arrivé. Ben c'est bon. Alors Shabbat Shalom. Shabbat shalom.